Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors, toutes sortes de nouvelles. On va commencer tout de suite parce que ça a brassé pas mal aujourd'hui pour un vendredi. Puis ça a brassé pas mal dans les milieux policiers criminels ce matin. Là. Ça fait déjà quelques jours, on s'entend, qu'on suivait là, le nouveau conflit de l'heure qui se passe dans les milieux criminalisés entre les Hells Angels de Québec, la capitale nationale, et le Blood Family Mafia, là, le gang de Pic Turmel.
D'ailleurs, j'ai l'impression que ce matin, pas tard dans la matinée, il y avait pas mal de taux de police sur la 20 entre Montréal et direction Québec, entre Montréal et Québec, parce qu'on dit que des forces policières, peut-être pas juste en provenance de Montréal ou du Grand Montréal, mais d'ailleurs aussi, mais des forces policières d'ailleurs ont convergé en renfort pour donner un grand coup à Québec.
Oui, on parle quand même d'à peu près 200 policiers, là, ce qui est décrit comme étant là, la plus large opération policière en 15 ans au Québec, là, depuis Shark, hein, Shark QC, qui avait eu lieu en 2009. C'est la dernière opération d'envergure du genre. Fait que c'est 200 policiers, une demi-douzaine de différents corps qui sont sollicités dans ce cas-ci. La Sûreté du Québec, le SPVM de Montréal s'est déplacé aussi. La Gendarmerie royale du Canada est en renfort. Puis on a eu toutes sortes de déclarations aussi aujourd'hui des policiers qui sont sortis en disant que ben, ça va brasser, qu'il y a des arrestations qui ont été déjà commises, mais surtout, c'est un peu l'espèce de message pour rassurer la population.
Ouais. J'attends pour voir là, jusqu'à demain. Je pense qu'il y a... tu sais, Shark, là, c'était vraiment... les policiers parlaient pas, là. Ils parlaient après. Parce qu'après, ils sont débarqués, là, de bonne heure le matin, puis c'était majeur. À un moment donné, on s'est réveillé là, à dire, OK, mais là, les policiers, il y en a partout, puis les DL se faisaient arrêter dans tous les coins du Québec. Là, je trouve que la police parle beaucoup avant. Ce qui me fait dire, oui, il y aura certainement des arrestations. Tu sais, il y a eu le dossier de Saint-Malachie, puis Montmagny, puis tu sais, il y a des cas vraiment d'enlèvement, séquestration. Il va y avoir des arrestations, il n'y a pas de doute. Mais j'ai plus l'impression que c'est une opération visibilité. Mélange de faire sentir au public la police est là, oui, un peu, mais aussi beaucoup faire sentir aux criminels, là, non, là, ça peut plus être ça, là.
Ouais, les orteils coupés,
la prochaine étape peut pas être que vous vous entretirez, vous tirez des coups de feu d'un stationnement. Parce que c'est ça qu'ils craignent, là, que tout ça ramène des règlements de compte, des répliques, puis les répliques souvent peuvent être des coups de feu qui sont parfois tirés dans des lieux publics. Donc, je pense que la police, c'est aussi faire capoter là, le crime organisé, les dire là, vous vous sentez, vous faites la pluie et le beau temps, vous sentez que vous avez le terrain libre pour faire vos affaires, ça sera plus le cas. Alors, je pense, parce que je trouve que les policiers parlent beaucoup.
Ouais, ben,
ils médiatisent beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs actions, alors que quand tu veux faire vraiment là, une action policière, ils font ça à 5-6 heures du matin. Quand les médias, on est informés, là, il est genre 7-8 heures. Puis
c'est presque fini. Là,
on se fait ça. Amener des caméras, mais les policiers, des gens sont déjà arrêtés. On ne veut pas avertir d'avance quand on va débarquer vraiment là, pour des frappes. Tu ne veux pas être accueilli. On ne veut pas que les gens t'accueillent avec le fusil déjà en main.
Donc, selon nos collègues du bureau d'enquête, en tout cas, puis ceux qui travaillent proche de ce dossier-là, il semble qu'il y ait de la pression politique aussi qui a été mise là, dans les derniers jours pour qu'on règle là, la situation, pour qu'on aille faire une démonstration sur le terrain. Là, ça aurait échaudé, si on veut, là, les gens du gouvernement Legault, entre autres, là, de voir autant là, d'actes de torture, d'enlèvement qui ont fait peur aux gens, là, franchement, dans les derniers jours. Donc, est-ce que c'est seulement de la visibilité? On a eu trois arrestations.
Il va y avoir aussi des arrestations pour permettre de dire « mais il ne peut pas y avoir d'arrestation ». S'il y a eu vraiment des gestes, là, puis des prises d'otages, ni plus ni moins, des séquestrations, des tortures. Il faut t'en ramasser quelques-uns. Mais tu sais, je m'attends pas à ce qu'il y ait 200. Parce que, surtout maintenant, si t'arrêtes des gens avec l'arrêt Jordan, à partir du moment où t'es arrêtes, t'es accuses, faut que le compteur part pour les 30 mois. Il faut que tu aies déjà commencé à monter ta preuve. Donc, je pense plus, ça va être visibilité, message à la population rassurant, message aux criminels, on vous a à l'œil. quelques arrestations dans les cas qui sont des gros cas là, qui ont été visibles.
Tout savoir en 24 minutes.
Hey, on peut respirer. Mario est soulagé, enfin. Il n'y aura pas d'élection fédérale.
Il n'y en aurait pas eu pareil, là.
Ah non, tu penses pas?
Ben non. Ouais, non, personne ne veut d'élection. Le Bloc n'en veut pas. Le NPD n'en veut pas. Les libéraux n'en veulent pas. Ouais, mais là, de toute façon, la question ne se pose plus.
Elle ne se pose plus. On disait ça, bien évidemment, avec un peu de sarcasme, parce qu'on a enfin cette entente qui est reconduite en ce moment entre le Parti libéral qui est au pouvoir et le NPD, les néo-démocrates, qui permettent, je rappelle quand même, là, alors qu'on a un gouvernement minoritaire du côté de Justin Trudeau, qui permettent à ce gouvernement-là de continuer à rouler. Ben,
comme s'il était majoritaire, là. Donc, Il y a la garantie qu'un des partis d'opposition, le NPD, va toujours voter avec lui. Là. Donc, les budgets, les votes cruciaux, le gouvernement est protégé. Là.
Vont être appuyés tant qu'il y a une entente. Puis le cœur de l'entente, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des négociations par rapport à un projet d'assurance médicaments là, qui était vraiment demandé par le NPD depuis déjà un bon moment. Et là, c'était censé se faire à la fin de l'année passée. Ça avait été reconduit. Là, on avait jusqu'au 1er mars. Là. C'était ça qui était mis comme nouvelle date butoir pour s'entendre. Et là, ben, on s'est entendu. Donc là, on parle là, des premières informations là, d'une couverture des contraceptifs hein, qui va avoir lieu dans un premier programme.
Qui serait gratuit complètement d'un bout à l'autre du Canada pour tout le monde.
Voilà. Puis là, après ça, on verra qu'est-ce que c'est comme contraceptif. Est-ce que c'est seulement la pilule, par exemple? Est-ce qu'on constate les condoms aussi? Est-ce qu'ils vont être remboursés par le fédéral? Ça va être à voir pour le reste. Là, je pense qu'on parle surtout de médicaments. Les médicaments pour traiter le diabète aussi qui vont commencer à être couverts. Et là, ben, c'est un système qu'on veut implanter là, à long terme, là, étape par étape, pour l'assurance médicaments. Mais évidemment, Mario, c'est un peu le jeu politique autour de ça. Là. Moins l'assurance médicaments, mais plus l'alliance qui est scrutée à la loupe en ce moment.
Ouais, ben, c'est-à-dire que d'abord, j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, je capote un peu sur le fait d'avoir un gouvernement qui a le fusil sur la tempe comme ça, le NPD qui disait là, l'année passée, c'était l'assurance dentaire. Là. On déchirait l'entente, on n'avait pas l'assurance dentaire. Là, cette année, on déchire l'entente, on n'a pas l'assurance médicaments. Mais le résultat, c'est que le gouvernement crée des nouveaux programmes sociaux qui chacun coûte des 10 milliards et plus.
Ouais, c'est des fortunes.
Mais de l'argent qu'on n'a pas, le Canada est déjà un déficit majeur. Donc, ça veut dire que c'est 100%. En fait, tu mets des nouveaux programmes sociaux, 100% financés par de l'argent emprunté, qui coûte des fortunes pour des générations à venir. Puis, à la limite, tu pourrais dire, regarde, on décide de le faire, on a bien étudié la question, puis on va faire l'assurance dentaire. Dans 5 ans, on amorcera l'assurance médicaments. Mais là, c'est pas ça. L'assurance dentaire est même pas implantée. On est en phase d'implantation que déjà, on dit, on y va avec l'assurance médicaments parce que le gouvernement agit sous la menace, là. Oui. Le gouvernement est faible, il agit sous la menace. Est-ce que c'est une façon raisonnable de gérer des finances publiques? Non. Deuxièmement, je viens de parler de gestion de finances publiques. Sur l'image politique, je comprends, là, je suis pas fou, je comprends que Justin Trudeau, avec les sondages qu'il y a, veut pas d'élection. Mais il me semble qu'il a l'air faible. Je sais pas, l'image que ça donne de voir le premier ministre du Canada, tu sais, qui est obligé, là, qui marche au pas, là, tu sais, c'est Jack Metzing qui dit tourne à gauche, tourne à droite, là, tu sais, puis lui, ben, il suit ça, là. Pis...
Il y a plein d'autres enjeux qui sont préoccupants, puis t'as le coût de la vie, t'as la crise du logement, t'as toutes sortes de problèmes
là,
en ce moment.
Là, Justin Trudeau, il répond, faut qu'il négocie cette semaine, là, son gros dossier, c'est de négocier avec Jack Metzing, puis c'est Jack Metzing, c'est le NPD qui décide de ce que Justin Trudeau va faire. Moi, je trouve qu'il a l'air faible là-dedans. Je trouve que, tu sais, prenons un autre scénario. Il avait dit cette semaine au NPD, là, regarde, là, on vient de créer l'assurance dentaire, ça coûte cher, on n'a plus d'argent pour un autre programme, on verra un peu plus tard, puis salut, puis l'entendre, mais si tu veux déchirer, déchire-le, puis allume-toi un feu de foyer avec.
Donc, appeler le bluff, dans le fond.
Ben, appeler le bluff, puis se tenir debout, dire, c'est moi qui est le premier ministre, moi j'ai regardé ça, les finances du Canada, puis c'est tout. Même moi, là, ça m'aurait secoué, j'aurais dit, waouh, voilà un premier ministre, voilà que... Là. Ça a-tu pas l'air d'un premier ministre, là, quelqu'un qui se fait traîner vers l'autre parti dans l'obligation de dépenser des dizaines de milliards contre son gré? Eh, monsieur.
Tout savoir en 24 minutes.
Et parlant d'argent, on a eu aujourd'hui finalement l'entente de principe acceptée du côté du Front commun, puis tu sais, 420 000 travailleurs ici au Québec. Entente qui était acceptée à 74,8%, donc quand même plus haut là, que ce qu'on avait eu par exemple pour la FAE et autres. Mais là, c'est entendu, c'est fait, on s'est réjouis d'une part et de l'autre aujourd'hui. Mais du côté des syndicats, Mario, on dit que c'est une page de tournée, mais qu'il y a encore tellement de travail à faire.
Oui,
on se prépare déjà pour la suite.
Faut toujours garder l'élastique tendu pour avoir d'autres choses dans pas trop longtemps. Mais non, c'était correct. C'était une conférence de presse bien faite. Ce qui m'a quand même frappé, c'est que autant les enseignants s'étaient dit comme vexés là, que François Legault elle laissait entendre que s'il y avait un déficit, c'était
de leur faute.
On leur mettait ça sur le dos. Tu m'as dit que le Fonds commun, ils ont l'air à bien vivre avec ça. Même, je pense que c'est le président, le porte-parole de la CSN, le négociateur, lui, il a dit, écoute, là, nous autres, là, on a fait plier le gouvernement, on a fait cracher deux fois ce qu'il avait prévu mettre au départ, puis tout ça, c'est des gains très importants pour le... Fait que, tu sais, il avait l'air à dire, ben là, qu'il passe au budget, puis qu'il dise c'est de notre faute, puis tant pis, nous, on est allé chercher ça pour nos membres, puis on est bien contents. Ça avait l'air pleinement assumé. Mais pour le reste, tu sais, il n'y avait pas d'exagération. C'est une conférence de presse. Au fond, quand même, moi, je pense qu'ils sont morts de rire au fond, quand même, parce que dans le fond, ils ont fait, comparé à la FAE, qui a fait 20 quelques journées de grève, eux, ils ont fait en tout et partout 9 journées de grève. Une bonne partie de pas tous leurs membres, mais une bonne partie de leurs membres avaient des fonds de grève et qui ont été compensés, pas tout perdu.
Oui.
Ils ont été compensés un peu pour les journées de grève. 9 journées de grève, ils arrivent avec cette convention-là. Moi, je pense qu'ils sont bien contents.
Oui. Ça, c'est ce qui semblait transparaître aussi aujourd'hui.
Oui. Les chefs, c'est le discours.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
On a aussi dans le dossier des nombreuses distractions qui viennent frapper la CAQ. Puis si j'utilise le terme distraction, c'est évidemment parce que François Legault lui-même a utilisé ça en début de session parlementaire, Mario. Hein? Pas de distraction cette fois-ci. Là, c'est encore des propos du premier ministre qui reviennent faire la manchette alors qu'il s'est emporté, encore une fois, sur des questions du Parti québécois par rapport à tout ce qui est, bien évidemment, le jugement là, qui va être repoussé, encore une fois, jusqu'en Cour suprême par Québec pour les demandeurs d'asile hébergés dans nos CPE subventionnés. Bon, et là, c'est que M. Legault, lui, a dit, en parlant à Paul Saint-Pierre Plamondon, il sait que les juges de la Cour d'appel sont nommés par le gouvernement fédéral, puis il dit qu'il y a plus confiance à la Cour d'appel qu'au gouvernement du Québec pour décider. Puis c'est emporté dans une espèce de tirade qui, finalement...
Qui a été interprété comme il remet en question le bon jugement des juges.
Oui, en gros, si je résume simplement, un juge nommé par le fédéral, ça va pencher du côté du fédéral plus qu'un juge qui est nommé par Québec.
Ouais. Et il y a un débat là-dessus. C'est sûr qu'un élu ne doit pas, théoriquement, doit faire confiance aux tribunaux.
Oui.
Par contre, on parlait ici à Cube Radio à Guillaume Rousseau, qui est un professeur de droit, critique évidemment du système fédéral, pis, et qui lui disait, ben non, veut dire que les juges de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral, c'est quelque chose qui est dénoncé. Plusieurs constitutionnalistes du Québec disent que ça devrait pas être le cas, ça devrait être le Québec qui nomme les juges de la Cour d'appel du Québec, comme aux États-Unis, par exemple, dans l'État, la Cour d'appel de l'État, c'est l'État qui les nomme, c'est pas le fédéral qui nomme.
Oui.
Donc, il dit, c'est débattable. Fait qu'il y a vraiment deux versions. Est-ce que le barreau... J'ai quand même été étonné. J'ai trouvé que le barreau, dans son propos, bon, aurait pu faire un appel à la prudence des politiciens. Une attaque directe contre le premier ministre, Guillaume Rousseau, puis même, tu vois, l'organisme Défense collective des droits, l'organisme très défenseur de la laïcité, a fait un communiqué, considère que le barreau fait de la politique. Donc, il y a des gens qui, en contrepartie... Donc, il y a des gens qui disent que le barreau défend le droit et les juges, mais il y a d'autres gens qui disent non, en allant attaquer François Legault comme ça, le barreau fait de la politique. Donc, à suivre, mais j'ai l'impression que sur celle-là, par exemple, les gens sont... Là, je parle même pas de la question des juges, mais plus globalement de la question des garderies puis de l'accès des demandeurs, des enfants des demandeurs d'asile aux garderies subventionnées. J'ai l'impression que la majorité silencieuse, assez forte, là, est derrière François Legault, a l'impression que... Puis tu sais, la position qu'il a prise en disant, mais regarde, si on avait des places libres, là, on les ouvrirait généreusement aux demandeurs d'asile.
Oui.
Pour l'instant, il nous manque des milliers et des milliers de places. Alors, de faire passer des parents qui paient des impôts ici avant des gens qui sont sans statut, je pense que ça paraît raisonnable à beaucoup de monde, là.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Il y a également une bataille judiciaire qui va s'engager très bientôt, qui concerne les universités McGill et Concordia. Tout ça dans le contexte, bien évidemment, de ces nouvelles mesures qui ont été mises en place pour les étudiants étrangers, les étudiants du reste du Canada également, qui viennent étudier dans des universités anglophones ici à Montréal, qui doivent maintenant payer des frais de scolarité qui sont plus hauts. Et là, on va contester du côté des deux universités devant la Cour supérieure du Québec cette nouvelle politique. On se souviendra que Bishop avait été inclus au départ,
exempté de l'exemption ensuite, parce que c'est une petite université dans le canton de l'Est qui n'a pas le même statut que les deux grandes à Montréal.
Voilà, et on dit du côté des universités que le gouvernement fait fi de sa responsabilité de protéger la minorité anglophone du Québec. Ça survient quand même un drôle de moment, Mario, où on n'arrête pas de parler du progrès de l'anglais à Montréal.
Je vais te dire, On va suivre cette cause-là. Est-ce qu'il y aura moyen de convaincre un juge que... Parce que même sur le fond, là, ils ont dit, Concordia et McGibbs, là, ils commencent à se plaindre des conséquences de la mesure du gouvernement. Ils disent, on a eu moins de demandes d'admission. À première vue, parce que là, on est pas, le processus n'est pas fini, mais oui. Là, à ce date-ci, on a eu moins de demandes d'admission. Sauf que ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir moins d'élèves inscrits, hein? Parce que souvent, mettons que McGill, ils font beaucoup de sélections, là. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers. Donc, ils vont dire, on prend juste ceux qui ont une cote R ou qui ont, ouais. Qui ont des notes en haut parce qu'ils ont, ont les moyens. Ils ont tellement de demandes qu'ils ont les moyens de faire du tri, là.
Oui.
Alors, peut-être qu'ils vont être obligés de descendre un petit peu plus bas dans les notes, d'aller chercher une tranche d'étudiants de plus.
Oui.
Mais de là à dire qu'il y a de leur banc qui vont rester vides, qu'il n'y aura pas de demandeurs du tout, on n'est pas du tout là à l'heure actuelle. Pas en tout. Ils vont peut-être avoir un moins gros bassin de demandeurs parmi lesquels choisir juste les meilleurs. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir moins d'étudiants, moins de revenus. Donc, il y a une... à suivre, mais il y a une espèce de panique, puis un message, là, tu sais, montrer que le gouvernement est en train de les détruire, là, qui est exagéré, en fait. La vérité, c'est qu'ils ont profité d'une situation extrêmement favorable pendant des années. Où ils allaient chercher beaucoup plus d'étudiants que les universités francophones. Ils se sont financés, ils ont fait énormément d'argent avec ça. C'est sûr que c'est jamais le fun de reculer dans la vie. Là. Tu te fais dire non à quelque chose que tu faisais l'année passée, c'est plate. Mais est-ce que c'est cette année qui est injuste ou est-ce que c'est les autres années qui, eux autres, touchaient le Klondike? C'est ça la question.
Actualité.
Nouvelle qui suivait un problème qui avait été dénoncé dans une municipalité des Laurentides. Je rappelle, à Rivière-Rouge, on était menacé de perdre le service de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge qui ne devait plus rouler 24 heures sur 24. Et là, la petite municipalité s'est saisie des tribunaux pour tenter de faire invalider tout ça. Et c'est chose faite depuis ce matin, la Cour d'appel du Québec qui a décidé d'ordonner que l'urgence de Rivière-Rouge va rester ouverte 24 heures sur 24.
Une grosse décision quand même, le tribunal qui ordonne au gouvernement de garder ouverte une urgence.
Oui, puis j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'avocat Carl-Éric Terrien un peu plus tôt lorsque je remplaçais notre collègue Yasmine Abdel Fadel. Puis c'est quand même quelque chose qui pourrait faire jurisprudence dans le sens où il y a peut-être d'autres petites municipalités au Québec qui ont des hôpitaux, qui perdent des services, mais qui pourraient poursuivre, ni plus ni moins, pour essayer de les garder, Mario.
Ouais. Faudra voir, parce que, tu sais, c'est le tribunal, là, lui, c'est pas lui qui paye, c'est pas lui qui organise les services. Que le gouvernement avait proposé, ou le 6 local avait proposé la fermeture de certains services en disant on manque de monde, faut regrouper nos effectifs la nuit. Je sais que les gens à Rivière-Rouge, eux, plaident la distance. Parce que, tu sais, on est, pour les gens moins familiers, on est dans l'ouest des Laurentides, là. Donc, tu sais, tu montes la 117, Sainte-Agathe vers Mont-Laurier, puis tout ça. Mais là, Rivière-Rouge, tu t'éloignes vers l'ouest, enfin vers l'Outaouais d'une certaine façon. Puis donc, les hôpitaux les plus proches, c'est 55
c'est
minutes.
C'est Mont-Laurier.
Ouais, Mont-Laurier, c'est comme 55 minutes, Sainte-Agathe, 50 minutes, ou l'inverse. Là, mais il n'a pas de proches. Là. Les deux, c'est une bonne distance. Donc, eux, cette urgence-là, la nuit, c'était très pratique à avoir. Est-ce que... Puis, c'est toujours quand même des décisions temporaires. C'est comme si le tribunal prend une décision en attendant. Mais est-ce que le gouvernement va vraiment reculer? Est-ce que le 6, en fait, c'est plus le 6, va vraiment reculer? Est-ce qu'on va trouver une solution à long terme pour garder ouverte cette urgence-là? Ou est-ce qu'on va finir quand même par la fermer? C'est ça qui va être surveillé dans les jours à venir.
Économie.
C'est arrivé par surprise, un peu, puis particulièrement pour certains clients de cette entreprise qui vient tout juste de mettre la clé sous la porte, mettre la clé littéralement.
Ouais, de force, pas de gré.
Oui, on parle de Lynx Air, qui est un transporteur aérien à très bas prix, qui avait déjà annoncé que ses derniers vols vont décoller dimanche soir, mais là, semble-t-il qu'aujourd'hui, du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau, tous les vols étaient déjà annulés. Puis même l'aéroport de Montréal sont sortis en disant que sans aucun préavis du côté de Lynx Air, on a cessé toute opération. Et là, c'est quand même une situation préoccupante.
Moi, mais je me pose la question, parce que là, eux ont annoncé ça ce matin. On se met sur la loi de protection de la faillite, on finit nos vols jusqu'à dimanche soir, puis lundi, on n'est plus là, on ne vole plus. Mais quand tu annonces ça, là, une fois que tu dis ça publiquement, je veux dire, mettons que tu as un avion qui n'a pas de carburant dedans. Est-ce que la compagnie de carburant va te faire le plein?
C'est une bonne question.
Alexandre, tu rentres au restaurant et tu dis, moi, j'ai pas un sou. Je suis en faillite.
Je vais prendre tout ce qu'il y a sur le menu.
Ouais. Hmm. Peut-être qu'elle ne servira pas. Ils vont dire, voulez-vous payer d'avant? Non, mais pour vrai.
Non, c'est bien dit.
Peut-être qu'on paye. Fait que là, moi, je donne le carburant. C'est l'exemple simple et niaiseux qui me passe par la tête, mais ça pourrait être plein d'autres affaires là, que tu dis, OK, c'est ce que je veux dire, c'est que ça devient difficile d'opérer, puis d'enclencher. Même les frais aéroportuaires, à chaque atterrissage à Vegas ou ailleurs, faut que tu payes des frais aéroportuaires. Alors, qui est prêt à faire affaire avec une compagnie qui a déjà annoncé... J'ai plus d'argent, puis je vais être en faillite, là.
Ouais, c'est certain que c'est un bon point. Puis t'as nommé certains des exemples qui ont été donnés par la compagnie elle-même là, pour expliquer, justement, qu'on mette la clé sous la porte. On parle, entre autres, du prix élevé du carburant, les frais aéroportuaires, le taux de change, l'environnement économique.
Oui, mais oui, on comprend que tout ce que tu viens de nommer, puis qu'ils ont nommé eux, c'est des mauvaises conditions pour partir un transporteur à bas prix.
Oui.
En même temps, moi, je pourrais dire... c'était vraiment à bas prix, puis peut-être trop. Là. Moi, je peux m'ouvrir demain un commerce, puis dire, moi, là, je vais battre Colgate Palmolive sur le dentifrice. Je vais te sortir un dentifrice, je vais le mettre à une pièce, ces tablettes. Mais je veux dire, tu comprends?
Si je perds... je me méfierais d'un dentifrice.
Non, mais parce que c'est pas ça, c'est que si je perds 2 piastres par tube, tu sais, je veux dire, je vais obtenir un prêt de la banque, puis quand le prêt va être rendu à zéro, je vais déclarer faillite. C'est un peu ça, tu coupes les prix. Là, c'est ça. C'est magasiné récemment des vols, là, quand t'arrivais sur eux. Tu dis, ben voyons, c'est donc bien pas cher, ça a pas de. Tu sais, ça a fait couper les prix. Mais, bon. Eux disent que c'est vraiment, là, ils ont eu de problèmes, leur modèle d'affaires était bon, ils ont manqué de crédit, mais on est obligé de constater qu'ils ont fait, une offre à très, très, très bas prix, mais que ça, c'était pas assez pour survivre.
Le monde.
Nouvelle aux États-Unis qui a retenu pas mal d'attention parce qu'on parle déjà depuis un petit moment, Mario, dans l'actualité, évidemment, de l'accès aux sites porno, par exemple, pour les jeunes. Il y a un projet qui est en train de se mettre en branle pour être capable de vérifier l'âge, par exemple, des gens qui rentrent sur les sites. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup aussi en ce moment d'attention qui est mise sur les réseaux sociaux, hein, en tant que tel, puis des problèmes que ça peut développé chez les jeunes. On parle évidemment là, de tout ce qui est apparence corporelle, dépression, anxiété. Et là, en Floride, est déposé un projet de loi hier soir qui pourrait interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour tous les jeunes de 16 ans et moins. Et là, il faut comprendre que ça devient une bataille.
Même quand Facebook était interdit aux jeunes, ils mettaient toute une fausse date de naissance puis se créaient un compte.
Oui, puis là, on veut aller avec des mesures supplémentaires pour prouver son âge, un peu comme dans le dossier de la porno. C'est exactement ce que j'ai discuté encore une fois aujourd'hui avec Nina Duc, qui est une professionnelle. Elle, à l'université, elle enseigne le comportement numérique des adolescents. Puis on revient toujours à la même conclusion, Mario, quand on essaie de réglementer pour les jeunes. Si vous dites à un ado qui peut pas faire quelque chose,
il va tout faire pour y arriver.
Il va tout faire pour y arriver, puis mon Dieu, qu'ils vont être créatifs pour être capables de s'approprier les réseaux sociaux par la suite. Donc, c'est très controversé, puis même à ce point-ci, là, le gouverneur Ron DeSantis de la Floride, qui a pourtant signé toutes sortes d'interdictions pour plein d'affaires dans les dernières années, même lui, il est frileux parce que, quelque part...
Il voit pas le comment, là.
Mais il voit pas le comment, puis surtout, on est aux États-Unis, là. Le premier amendement... La liberté d'expression des jeunes aussi. C'est pas parce que t'as pas 18 ans que t'as pas accès à ta liberté d'expression.
Il y a un petit 30 secondes sur la chasse au trésor.
Et on va en reparler un peu plus tard à l'épisode Mario, mais en Colombie, là, c'est le rêve de tout chasseur d'épave, un galion espagnol, un des plus gros de la flotte qui a été coulé en 1708, qui serait rempli, ce galion-là, d'or, de pierres précieuses, tu sais, les trésors de tout ce qu'il y avait dans les colonies espagnoles qui étaient ramenées jusqu'au roi Philippe V d'Espagne. Mais là, on a non seulement trouvé l'épave, elle est gardée dans un lieu secret et on veut commencer à extraire l'or et les pierreries qu'il y aurait dedans. Vraiment, moi, ça m'emballe tellement des histoires de
pirates. Comme le trésor de Rackham le Rouge.
C'est un peu comme le trésor de Rackham.
Faire un petit sous-marin en forme de requin.
Je vais aller tout de suite regarder les soumissions. Peut-être que là, le nôtre va être un beau cube radio là, sur un dauphin, peut-être. C'est à voir.
Il va être retenu. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.